vous avez fait le travail. Les équipes comprennent pourquoi le changement est nécessaire. Elles pourraient expliquer le business case avec leurs mots. L'awareness est là, solide. Et pourtant, elle n'avance pas. Certaines résistent ouvertement. D'autres font du surplace poliment oui, on verra. D'autres encore disent les bonnes choses en réunion mais ne changent rien dans leur quotidien. Bienvenue dans le désir. L'étape la plus humaine du modèle ADKAR est celle qui met le plus mal à l'aise les chefs de projet. Pourquoi le désir est l'étape la plus difficile? L'awareness, c'est du cognitif. On peut communiquer, expliquer, démontrer. Le désir, c'est de l'émotionnel. Et on ne force pas quelqu'un à avoir envie. La différence est fondamentale. Dans le modèle ADKAR, chaque étape peut échouer, mais l'échec du désir est celui qu'on a le plus tendance à mal interpréter. On le prend personnellement. On se dit « mais pourtant j'ai expliqué, j'ai fait une belle réunion, qu'est-ce qu'ils veulent de plus ?» Ce qu'ils veulent, c'est une raison personnelle de changer. Pas une raison corporate. Pas une raison stratégique. Une raison qui parle à leur situation, à leur peur, à leur ambition, à leur quotidien. Et c'est là que le bâtiment blesse, la plupart des projets de changement ne construisent que des raisons collectives de changer. Le désir est individuel et il se construit une personne à la fois. Le WIFM n'est pas une question égoïste. What is in it for me, qu'est-ce que j'y gagne? Cette question est souvent perçue comme mesquine, individualiste, contraire à l'esprit d'équipe. Sauf que c'est la question la plus naturelle et la plus légitime du monde face à un changement. Quand on demande à quelqu'un de changer, on lui demande un effort. Apprendre de nouvelles choses. Sortir de sa zone de confort. Accepter de ne plus être compétent du jour au lendemain. Prendre le risque de l'échec. Tout ça, c'est un coût personnel. La question « qu'est-ce que j'y gagne ?» n'est pas un signe d'égoïsme, c'est un calcul rationnel de l'effort demandé. N'importe qui le fait, consciemment ou non. La différence, c'est que quand la question reste sans réponse, la personne invente sa propre réponse et elle est rarement positive. Le travail du désir, c'est d'aider chaque personne à trouver sa propre réponse à cette question. Pas de lui imposer une réponse toute faite. Les leviers du désir. Il n'y a pas de formule magique pour créer le désir, chaque personne est différente. Mais il y a des leviers qui reviennent systématiquement. Dies levier 1, la réduction de la perte. Le premier moteur du changement, ce n'est pas le gain, c'est la peur de la perte. Les gens changent plus facilement pour éviter de perdre quelque chose que pour gagner quelque chose. Ça peut être la peur de perdre son emploi si on ne s'adapte pas, la peur de devenir obsolète, la peur de voir son équipe disparaître, ou simplement la peur de passer à côté des évolutions du métier. C'est un levier puissant, mais il faut l'utiliser avec précaution. Une communication trop anxiogène paralyse au lieu de motiver. L'équilibre est entre une alerte suffisante pour créer l'attention et une perspective positive pour donner envie d'agir. Dies levier 2, le bénéfice personnel tangible. Le plus simple des leviers, montrer concrètement en quoi le changement va améliorer le quotidien de la personne. Pas le chiffre d'affaires augmentera de 15%, ça, c'est pour l'entreprise. Mais tu passeras 2 heures de moins par semaine sur les saisies, ça, c'est pour elle. Le bénéfice doit être tangible, immédiat ou à court terme, et personnel. Si le bénéfice est dans 3 ans ou pour l'actionnaire, il ne crée pas de désir. Dies levier 3, la preuve sociale. Les humains sont des animaux sociaux. On regarde ce que font les autres avant de décider quoi faire. Si les collègues influents adoptent le changement, ça crée un effet d'entraînement. C'est le principe des changes champions, identifier les personnes respectées dans chaque équipe, les embarquer en premier, et les laisser témoigner. Un commercial qui dit « j'ai testé le nouveau CRM, voilà ce que ça m'a apporté aux 15 réunions de la direction ». Dies levier 4, l'autonomie et la participation. Les gens ont plus envie de faire quelque chose quand ils ont eu leur mot à dire. Plus le changement est imposé, plus le désir est faible. C'est pourquoi les meilleures démarches de changement associent les équipes à la conception. Pas pour la forme, un vrai pouvoir de décision sur les aspects qui les concernent. Ça transforme ou on me change en je participe au changement. Dies levier 5, le respect de la perte. Parfois, il n'y a pas de bénéfice à montrer. Parfois le changement implique une perte réelle, un statut qui disparaît, une compétence qui devient obsolète, des collègues qui partent. Dans ces cas, le meilleur levier du désir, c'est la reconnaissance de la perte. Dire « je sais que c'est difficile, je sais que vous perdez quelque chose d'important, et c'est normal de le regretter ». Ça ne supprime pas la perte, mais ça crée la confiance nécessaire pour avancer quand même. La résistance n'est pas l'ennemi. C'est peut-être l'idée la plus importante de tout le modèle ADKAR, la résistance au changement n'est pas un problème à éliminer. C'est un signal à écouter. Quand quelqu'un résiste, c'est qu'il y a une raison. Parfois c'est une peur légitime, parfois une information qu'on n'a pas donnée, parfois une vraie faiblesse du projet que personne n'avait vu. Les meilleurs changements que j'ai vus sont ceux où les équipes ont dit non et où ce non a été entendu, analysé, et a permis d'améliorer le projet. La résistance est un feedback gratuit. La traiter comme un problème plutôt que comme une donnée, c'est se priver du meilleur radar dont on dispose. C'est aussi pourquoi il ne faut pas confondre résistance et manque d'awareness. Un non peut vouloir dire « je ne comprends pas pourquoi c'est un problème d'awareness » à traiter par la communication. Ou il peut vouloir dire « je comprends pourquoi mais je ne veux pas c'est un problème de désir » à traiter par l'écoute et la motivation. Les deux diagnostics n'appellent pas les mêmes réponses. Comment construire le désir concrètement? Dies le diagnostic individuel. La première étape, c'est de comprendre où chaque personne en est. On ne construit pas le désir de la même façon selon que la personne est. Inquiète, elle a peur des conséquences du changement, besoin de réassurance. Sceptique, elle doute que le changement tienne ses promesses, besoin de preuves. Fatiguée, elle a déjà vécu trop de changements ratés, besoin de constance. Opposante active, elle a des raisons solides de s'opposer, besoin d'être écoutée. Indifférente, le changement ne l'atteint pas personnellement, besoin d'être concernée. Chaque profil appelle une approche différente. C'est pour ça qu'une communication de masse ne suffit jamais pour le désir. Il faut du sur-mesure. Dièse, les actions qui marchent. Les ateliers de co-construction, au lieu de présenter le changement comme une solution finie, laissez des groupes d'utilisateurs contribuer à la conception. Ça crée de l'appropriation et ça améliore le projet. Les visites terrain, envoyez les équipes voir des collègues qui ont déjà adopté le changement et qui en sont contents. Rien ne vaut le témoignage d'un pair. Les quick wins visibles, identifiez des victoires rapides qui montrent que le changement apporte des bénéfices concrets dès les premières semaines. Rien ne crée plus de désir que de voir un collègue gagner du temps grâce au nouveau système. Les conversations one-to-one, le désir se gagne souvent dans des échanges individuels, pas en réunion. Un manager qui prend 15 minutes avec chaque membre de son équipe pour écouter leurs craintes et leurs espoirs, c'est ça, le vrai travail du changement. Dièse, les erreurs qui tuent le désir. L'injonction. Vous devez adhérer. Ça ne marche pas. L'envie ne se décrète pas. La manipulation. On va leur faire croire que c'est leur idée. Les gens sentent la manipulation à des kilomètres, et ça détruit la confiance pour les changements suivants. La surpromesse. Ce sera génial, tout sera mieux, aucun problème. Quand la réalité rattrape le discours, la déception est proportionnelle à la promesse. Un changement honnête crée plus de désir qu'un changement idéalisé. L'uniformité. Traitez tout le monde de la même façon. Le désir est individuel, les leviers qui marchent pour certains ne marchent pas pour d'autres. Le rôle des sponsors et des managers. Dans le modèle ADKAR, le désir est principalement influencé par deux groupes, les sponsors, les décideurs qui portent le changement, et les managers de proximité, les N+ indirects. Les sponsors créent le désir en montrant un engagement visible et continu. Pas un kick-off puis plus jamais une présence régulière qui dit « ce projet compte vraiment pour moi ». Les managers de proximité créent le désir en écoutant, en expliquant, en adaptant le discours à chaque personne. Ils sont le lien entre la stratégie et l'individu. Sans sponsor actif, le désir meurt. Sans manager formé à la conduite du changement, le désir reste une intention qui n'atteint jamais les équipes. Le test du désir. Comment savoir si le désir est acquis? Même test que pour l'awareness, mais la question change. Demandez à une personne prise au hasard, est-ce que tu penses que ce changement est une bonne chose pour toi? Si elle répond oui avec des nuances, mais un oui sincère, le désir est là. Si elle hésite, si elle répond je suis obligé, ou si elle change de sujet, le désir n'est pas construit. Et surtout, ne pas confondre l'absence d'opposition avec la présence de désir. Ils ne se plaignent pas n'est pas la même chose qu'ils ont envie. Le silence, c'est de l'obéissance, pas de l'engagement. Dans le prochain épisode. On a la compréhension, awareness, et l'envie, désir. Maintenant, il faut passer à l'action. Et c'est là que la plupart des projets font une erreur fatale, ils confondent knowledge et ability. Savoir comment faire, et être capable de le faire, ce n'est pas la même chose. Le piège du « j'ai formé les gens », donc c'est bon et probablement ce qui fait le plus de dégâts dans la conduite du changement. Dans le prochain article, la différence cruciale entre knowledge et ability, et comment éviter que votre formation parte en fumée. Micro-podcast, écoutez, 7 minutes.